Bonsoir, ici Onde Noire, l'émission polaire la plus swing cette fois-ci de la bande FM.
L'habitude d'en dire bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et bonsoir Jean-Paul Gracias.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, une très rapide présentation. Vous êtes traducteur, un passeur des traducteurs de la langue anglaise, aussi bien de l'américain que de l'anglais, puisque vous êtes le traducteur en particulier chez Rivage, de James Ellroy, l'américain, David Peace, l'anglais.
Ouais.
Et puis, peu élégamment, je rajouterai pas que, parce que vous avez aussi traduit David Goodis, Robin Cook, et un livre que j'aime beaucoup, c'est le roman de Shirley Jackson, Le magnifique Nous avons toujours vécu au château.
Oui.
Vous l'avez retraduit, c'est ça ?
Un classique, oui.
Voilà, un grand classique. Et l'on va ensemble parler de la toute nouvelle traduction d'un roman de Jim Thompson, l'écrivain américain, que je vais vous laisser dire le titre en anglais, ce sera mieux pour l'accent.
Oui, c'est Pop 1280.
Voilà, donc merci beaucoup. Traduit donc en français Pottsville, 1280 habitants. Mais
oui. Pendant
très longtemps, ce roman s'est intitulé 1275 âmes, puisque c'est un roman écrit par Jim Thompson, en 1964, préalablement traduit en 1966 par Marcel Duhamel pour la série noire. On va un tout petit peu évoquer le roman avant de parler justement de votre travail de traducteur. C'est un roman, n'hésitez pas à m'interrompre si je me trompe, qui se passe au Texas début du XXe siècle.
Le oui, personnage. Précisément,
Pardon.
Ça se passe précisément en 1917.
1917, et l'on fait la connaissance d'un. Quand même un drôle de shérif, un personnage à la fois en couleur et très particulier qui s'appelle Nick Corey. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce personnage ?
Nick Corey, il est typiquement thompsonien, c'est une sorte de criminel qui se permet tout. Et sa couverture, c'est qu'il passe pour un crétin.
Mmh. Et donc, c'est un shérif, donc je crois que c'est ça que je l'ai dit, c'est un shérif idéal, tout au moins au dire de Tim Thompson, puisque c'est un gros feignant en fait.
Pourquoi il en fait le moins possible.
Voilà, il en fait le moins possible, et surtout, ses concitoyens sont très contents parce qu'il rechigne à poursuivre les contrevenants.
Exactement, il n'aime pas effectuer d'arrestation.
Et voilà, pour donc les concitoyens, je rappelle qu'aux États-Unis, on élisait et on élit toujours les shérifs. Donc...
Oui, son seul problème, c'est que les prochaines élections approchent.
Voilà.
Oh,
c'est pas son seul problème. Hein. Il a beaucoup de problèmes avec les femmes, quand même.
Oui, mais il a beaucoup de femmes aussi.
C'est ça, il a une épouse.
Ses nombreuses maîtresses.
Une épouse, une maîtresse. Et...
Oh, plusieurs maîtresses.
Plusieurs, mais dans ses maîtresses, il semblerait, mais j'en suis plus tout à fait sûre à la deuxième lecture, qu'il aime une femme, enfin tout au moins qu'il aimerait bien vivre une partie de sa vie avec une des femmes.
Oui, c'est l'institutrice, l'intellectuelle.
L'intellectuelle. Et est-ce que je me trompe si je dis que c'est un roman, mais bon, on est dans l'univers de Jim Thompson, un roman très dérangeant, mais complètement immoral.
Oui, totalement immoral, mais c'est pas nouveau chez Thompson.
Voilà, mais bon, malgré tout, on le dit souvent dans le roman noir, Nick Corey, c'est quand même pas amoral, parce qu'il a bien des défauts, mais il y a un truc quand même qu'on peut lui... Il supporte pas les racistes. Ou alors il fait semblant.
Oui, c'est vrai.
Je cite à un moment donné, des mots que vous partagez, des gens... qui cherchent des réponses faciles aux grands problèmes. Des gens qui tiennent les Juifs ou les Noirs pour responsables de toutes les calamités. De temps en temps, on le sauve un petit peu quand même. Hein.
Oui, mais ce qu'il fait dire à Nick Corey, là, je crois que c'est ce qu'il pense lui-même.
Oui, on a l'impression effectivement que dans les passages un petit peu sérieux des dialogues, des pensées de Nick Corey, c'est vrai que c'est un peu l'image des États-Unis et de ce que Jim Thompson aimerait que les États-Unis soient, ou tout au moins ses concitoyens. On va passer à la traduction. Comme je l'ai dit au départ, ce roman est une retraduction, mais ce n'est pas le premier roman de Jim Thompson que vous avez traduit.
J'en ai traduit au départ trois qui étaient encore inédits en France. Et puis j'ai fait deux retraductions.
Donc ces deux retraductions, je crois que j'ai oublié de le préciser, c'est à la demande de François Guérif pour la collection Rivage Jeune Noir, voilà, chez Paillot Rivage.
C'est-à-dire L'Assassin qui est en moi et Pottsville.
Pottsville, voilà. Pottsville, 1280 habitants.
Alors, L'Assassin qui est en moi était paru également en série noire.
En série noire. Je vais poser une question très bête, mais quand on retraduit... Quand même, c'est un livre, je pense que vous êtes fan de romans noirs depuis quelques années. C'est un livre que vous aviez lu il y a très longtemps quand même.
Je l'avais lu en 70.
En 70, donc le temps de tout oublier quand même.
Oui, mais je l'avais relu en anglais il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans,
voilà,
pour
donc,
le plaisir.
Par contre, quand on vous demande la retraduction, c'est voilà, une question simple mais un petit peu bêta-somme, mais vous lisez évidemment, vous relisez pas du tout la version française.
Ah non, surtout pas.
Et donc, après, je suppose que vous avez quand même relu attentivement l'une et l'autre.
Oui, quand mon travail a été terminé, j'ai examiné celui de Duhamel.
Et là, je pense que vous êtes allé quand même de surprise en surprise, parce qu'on voit à quel point c'était indispensable. J'ai eu la chance d'avoir quelques petits passages, des passages entiers qui sont coupés.
Oui, ça c'était classique à la série noire. Faut pas que les bouquins soient trop longs.
Oui, voilà, donc ça, c'était la norme. Mais quand même, des fois, il semble qu'on peut choisir. Et encore une fois, c'est simplement montrer à quel point cette traduction est indispensable et que ceux qui ont lu 1275 âmes doivent relire Pottsville. Sans jeter la pierre à Marcel Duhamel, il y a des fois, il y a carrément des dialogues clés qui sont coupés.
Oui, alors il y a un dialogue que j'ai adoré traduire parce qu'il est très second degré, avec une façon de filer la métaphore sexuelle qui est extraordinaire. Et Duhamel, ça a dû le gonfler de faire ça, de se creuser la cervelle. Alors il a remplacé tout le dialogue par une seule phrase. Je vous passe les détails.
Oui. Jetons un voile pudique, en gros. Et c'est bon. Étonnant, parce que sinon, par contre, il y a beaucoup de termes crus et de scènes quand même.
Les termes crus, j'ai une explication. Dans la série noire, les mots choquants sont réduits à leur première lettre suivie de trois points, ça cause, la censure de l'époque.
Oui, c'était pas une autocensure. Donc
dans les années 60, on pouvait se retrouver qu'un procès pour obscénité ou attends, je sais pas, ce genre de choses.
Ou alors carrément, peut-être empêcher la traduction, pas la traduction, mais la parution.
La parution du livre.
Livre. Donc effectivement, c'était contre-productif. Il y a quand même, je reviens à l'ancienne traduction, il y a tout un vocabulaire, hein, ce champ lexical qu'on employait dans les années 60, le phrasé, et pour coller un peu à ces expressions de mauvais garçon, de titi parisien. Et ça,
oui, mais les titi parisiens n'ont rien à faire dans le sud des États-Unis,
voilà,
en 1917.
Et en plus, moi, ce qui m'a le plus épaté en lisant en dehors de la qualité littéraire de cette traduction, c'est qu'en fait on adorait 1275 âmes.
Oui, mais on avait raison de l'adorer.
On l'adore toujours, d'ailleurs. Parle pas au passé. Mais je me suis rendu compte, c'est peut-être naïf de ma part, mais je me suis rendu compte que finalement, ça collait pas du tout, en fait, avec l'univers qu'a voulu décrire Jim Thompson, y compris l'univers littéraire de Jim Thompson.
Oui, c'est vrai, il y avait un grand décalage.
On l'a déjà vu dans L'Assassin qui était en moi, mais là, ça me semble encore plus flagrant.
Oui.
Alors, pardon. Vous vouliez pas. Alors, j'ai choisi un petit extrait.
Écoute.
Cet extrait, c'était. Il n'est pas peut-être vous allez le trouver pas très significatif, mais je l'ai choisi parce qu'en fait, il y a une très longue phrase. Il n'est pas évident de traduire des très longues phrases. Et voilà, il y a une expression qui était assez typique des traductions séries noires. Donc, on est page 72 dans la version 1275 âmes, page 75. Voilà, je vais essayer de faire passer ces deux passages. Alors, version 1966. Si bien qu'à la réflexion, les électeurs ne voyaient pas la nécessité de me débarquer. Ce qui revenait à dire, au fond, que mieux valait rien du tout que quelque chose, vu qu'il suffisait de me regarder et de m'écouter un moment pour se rendre compte que je ne suis pas homme à m'insurger contre quoi que ce soit, sinon ne plus toucher ma paix, et que je n'aurais jamais assez de cran pour passer à l'action, même si l'envie m'en prenait. Je laisserais tout bonnement pisser le mérinos, chercher à changer quoi que ce soit, parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et finalement, le moment venu de compter les voix, je me retrouverai toujours shérif. Donc, pour que nos auditeurs suivent bien, je vais donc maintenant lire le même extrait traduit par donc Jean-Paul Gracias, notre invité. Alors, tout bien pesé, je commençais à passer pour un candidat plutôt valable aux yeux des électeurs. C'est le genre de situation où rien du tout semble préférable à quelque chose, parce qu'il suffisait aux électeurs de me regarder et de m'écouter un moment pour comprendre qu'en fait, je n'étais pratiquement opposée à rien, sinon au fait de ne plus toucher ma paye, et que je n'aurais jamais le cran nécessaire pour faire quoi que ce soit, sinon si je m'y tenais fermement. Je laisserais simplement les affaires suivre leur cours, comme elles l'ont toujours fait, parce que ça n'aurait pas de sens de tenter de les changer. Et après le dépouillement des bulletins de vote, j'étais toujours shérif. Je suppose qu'à la relecture, le terme « laisser pisser le mérinos » vous a tiré un petit sourire quand même.
Oui, ça va. J'ai sursauté parce que j'avais oublié ce détail chez Duhamel.
Voilà, alors il y a un passage très... Alors cette phrase, elle me semble particulièrement importante dans le travail et dans la construction de la traduction. C'est le fait que, par rapport en particulier à l'autre, vous ayez trouvé utile, et je suppose que ça a demandé quand même un moment de travail, le « rien du tout » et le « quelque chose » sont en italique. Parce que cette phrase interminable, si on n'a rien du tout quelque chose au milieu, c'est vrai que c'est lourd.
Exactement, oui. J'essaye de rendre un texte lisible.
Oui, voilà. C'est une jolie définition de la traduction, mais je pense que c'est quand même encore un petit peu plus que ça. Est-ce que je me trompe si aussi je dis que, par rapport à cette nouvelle version, le personnage du shérif, Nick Corey, donc, qu'on a évoqué au début, il est finalement beaucoup plus complexe, beaucoup plus retors.
Oui, il est très complexe. Hein. Il est d'ailleurs très étonnant pour le lecteur. Au début, on ne sait pas si c'est un gros balourd ou c'est un type très retors, très malin, qui manipule tout le monde. Et puis en fait, c'est un peu des deux. Mais il se pose des graves questions. Hein. C'est presque métaphysique, la fin du bouquin.
Ah, on ne va pas le lire. Je ne dévoilerai rien.
Ah non, il ne faut pas dévoiler la fin.
On ne va pas dévoiler la fin, mais ça, je dirais que c'est une fin d'anthologie, quand même. Hein. Quand on parle de fin ouverte, on peut s'en poser des questions.
Elle est ouverte parce que, au dernier moment, Thompson a décidé de la laisser ouverte. Parce que j'ai trouvé un scan de la dernière page tapé par Thompson, et il y avait deux phrases de plus. Au dernier moment, il les a supprimées.
Mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, dans votre travail de traduction de ces romanciers-là, avec David Peace et James Ellroy, je suppose que vous avez des contacts réguliers, des questions à poser, mais est-ce que, chez ces auteurs décédés maintenant, vous avez accès à des archives, à des manuscrits, des versions différentes?
Sur Jim Thompson, il y a eu deux livres de référence, des études sur l'auteur. Et c'est dans l'une des deux que j'ai trouvé cette fameuse dernière page.
D'accord. Et donc, vous avez quand même bien étudié l'univers de Jim Thompson, y compris grâce aux traductions des trois inédits et du premier retraduit chez Rivage. Et vraiment, ce personnage, il revient, parce que Nick Corey, il est quand même incroyable. On est là complètement dans un personnage de l'univers de Thompson, et on retrouve quand même des caractéristiques de l'accent Killer Inside Me, retraduit en l'assassin que j'ai en moi. The Killer Inside Me.
Oui, ces deux livres sont jumeaux pratiquement.
Et dans la première traduction, on efface aussi complètement. Alors, c'est de ma faute d'ailleurs, on n'a fait que parler du personnage de Nick Corey, mais il y a aussi la peinture absolument terrible de ce petit comté du Texas en 1917, donc.
Oui.
Et ça, la première traduction, ça l'effaçait complètement, finalement.
Je n'ai pas relu assez attentivement pour
marquer. C'est tout au moins l'impression que ça donne. Alors, dans votre travail, au cours de la traduction, comment, que ce soit dans celui-là ou dans un autre, par rapport à un roman écrit en 1964 qui se passe en 1917, comment on arrive à trouver le vocabulaire spécifique qui convient aussi bien à une traduction d'un livre qui se déroule au Texas au début du XXe siècle, mais que un lecteur français trouve tout à fait logique? C'est un mystère pour moi.
Bon, c'est pas compliqué, il suffit de rester simple. Essayer de reproduire justement ce qui m'a choqué dans la traduction de Duhamel, c'est quand ces paysans du sud des États-Unis s'écrit Crévindier.
Oui, effectivement.
Ça fonctionne pas, ça.
Non, oui, puis même dans certaines régions, on ne dit plus depuis quand même un certain temps.
Oui. Peut-être dans les romans de Balzac.
Oui, peut-être. Et donc, dans l'ensemble du vocabulaire utilisé, il y a un terme qui m'a étonnée, que je ne connaissais absolument pas.
Oui.
C'est le terme bobinard. Marcel Duhamel.
Le bobinard, oui, mais c'est un grand classique de l'argot français, ça.
Et ben voilà, je ne dois pas lire assez d'argot français. Marcel Duhamel employait, pour cela, d'ailleurs, ce n'était pas du tout inconvenant, hein, il employait le mot bordel.
Le bordel, oui.
Voilà, bobinard, on retrouve la même tonalité.
C'est presque plus l'argot, bordel, c'est l'anglais français courant.
Ouais, mais c'est vrai qu'alors, évidemment, j'étais un petit peu, maintenant on googlise facilement, donc j'étais un petit peu cherché, et c'est vrai que c'est un terme qu'on trouvait entre autres dans des romans de Zola, donc en fait, fin 19e, puis dans d'autres romans, début du 20e siècle, on est quand même bien dans l'époque,
un peu
en tout
dans
cas.
L'époque, ouais.
Est-ce que, quand on traduit, est-ce que ça vous arrive, et on arrive au terme de notre émission, est-ce que ça vous arrive de lire la phrase en anglais, puis votre traduction poursuivre le rythme?
Je fais ça sans arrêt, mais...
Parce que c'est étonnant, voilà, nous on n'a pas accès à l'anglais, on ne lit pas assez bien l'anglais, la plupart des lecteurs français sont dans la même situation. Donc c'est l'idée dans la traduction de non seulement ne pas trahir les termes et le fond, mais aussi la forme.
Oui, c'est de donner, si possible, une idée du rythme de la phrase originale.
Alors, qu'est-ce qu'on va bientôt avoir? Bientôt, le monde de la littérature va être un peu en sommeil en juillet-août. Est-ce qu'il y a de nouvelles traductions prévues de Jim Thompson?
Oui, de tous les derniers titres qui ne sont pas encore chez Rivage le seront bientôt.
Donc fin 2016, enfin, en 2017 peut-être un par an.
Je ne sais pas exactement les dates prévues.
Jean-Paul Gracias, je vais vous remercier. Donc, je vais rappeler. Donc, Pottsville, 1280 habitants. Donc, un roman écrit au départ par Jim Thompson en 1964, qui s'est sorti assez récemment chez Rivage Noir. Merci infiniment, Jean-Paul Gracias. Et j'espère à bientôt. Et on parlera de jazz dans la deuxième partie d'émission.
D'accord.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.